Bonjour à chacun. Il y a 15 jours, lors de la dernière formation du samedi matin, nous avons considéré en détail les sacrifices de l'Ancienne Alliance, les sacrifices que nous trouvons donc dans l'Ancien Testament. Des sacrifices et un système sacrificiel complexe qui nous a permis tout à nouveau de mesurer un peu l'immense privilège qu'est le nôtre, l'immense privilège en comparaison de notre culte, du culte de la nouvelle alliance en Jésus. Un culte qui n'a plus besoin d'être réalisé dans le temple à Jérusalem, dira Jésus à la Samaritaine, et qui peut se faire en tout temps et en tout lieu, pour autant qu'il soit fait en esprit et en vérité. Il est évident que les sacrifices de l'Ancien Testament appartiennent au culte de l'Ancien Testament. Ceci dit, il est néanmoins, même si c'est dans des proportions moindres, encore question de sacrifice dans le Nouveau Testament. De sacrifice et même de sacrificateur. Qu'est-ce que cela veut dire ? Qui sont les sacrificateurs aujourd'hui ? Quels sont les sacrifices auxquels Dieu s'attend, auxquels Dieu s'attend de son peuple aujourd'hui ? Pour répondre à ces questions, je vous propose premièrement de comparer sommairement le culte de l'Ancienne Alliance avec le culte de la Nouvelle Alliance, c'est-à-dire notre culte, et puis nous verrons quels sont les sacrifices de notre culte aujourd'hui. C'est d'ailleurs ainsi les sacrifices de notre culte que j'ai intitulé le message de ce matin. Le culte de l'Ancienne Alliance dans l'Ancien Testament donc s'articulait autour de trois grands axes. Premièrement, il y avait le service dans le sanctuaire, dans le tabernacle, tant que le peuple était dans le désert, et puis dans le temple à Jérusalem, après Salomon. Et ce service dans le sanctuaire était confié à la tribu de Lévi, aux Lévites. Ça, c'est le premier grand axe. Le deuxième grand axe, ce sont les différents sacrifices qui étaient offerts pour différentes situations, qui étaient offerts par des sacrificateurs qui étaient tous issus de la famille d'Aaron, à qui le sacerdoce avait été remis. Et puis, troisièmement, il y avait toutes les fêtes d'Israël, les diverses fêtes, qui rythmaient à la fois la vie cultuelle du peuple ainsi que sa vie civile. Voilà dans les grandes lignes ce qui structurait le culte de l'Ancien Testament. Culte sur lequel nous pouvons poser deux regards très différents. Premièrement, un regard positif. Un regard positif car toutes les prescriptions et toutes les pratiques du culte de l'Ancien Testament avaient pour but de préfigurer et d'annoncer l'œuvre rédemptrice et expiatoire de Jésus-Christ. Regard positif. Et puis un regard négatif. Regard négatif car toutes les prescriptions et toutes les pratiques du culte de l'Ancien Testament devaient être répétées sans cesse, soulignant ainsi leur insuffisance et la nécessité d'une meilleure alliance. Depuis, nous le savons, Jésus, le Christ, est venu. Il est venu et il a accompli par sa vie, par son obéissance, par sa mort, par son sacrifice et par sa résurrection, tout ce que le culte de l'Ancienne Alliance annonçait, préfigurait, et il a établi une alliance meilleure une alliance parfaite qu'il a scellée de son propre sang. Comme le dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 8, verset 6, « Christ est le médiateur d'une alliance meilleure, fondée sur de meilleures promesses. » Voilà pourquoi le culte de l'Ancien Testament est devenu obsolète, caduque, parce qu'il n'était que l'ombre des réalités à venir, que l'ombre de la réalité qu'il préfigurait, de la réalité qui est venue par Jésus et qui est bien meilleure. Pour bien comprendre les choses, bien comprendre la supériorité de la nouvelle alliance, il est utile et intéressant de comparer dans les grandes lignes, bien sûr, en les qualifiant les cultes des deux alliances. Et la première comparaison que nous faisons est entre la rigidité d'un côté et la souplesse de l'autre. Dans l'Ancien Testament, tout était réglementé. Tout. Il y avait des choses à faire et celles qu'il ne fallait pas faire. Et les choses qui devaient être faites étaient stipulées jusque dans leurs moindres détails. Pas de souplesse. Aucune souplesse. Tout était prescrit très précisément. Le lieu du culte, les temps du culte, les offrandes et les sacrifices du culte. Tout devait être scrupuleusement respecté à la lettre et tout écart était sérieusement sanctionné. Le culte de l'Ancienne Alliance était ainsi marqué par une très grande rigidité. Une rigidité néanmoins pédagogique, puisqu'elle avait pour but d'enseigner au peuple que Dieu est un Dieu d'ordre, un Dieu trois fois saint. Et surtout un Dieu que l'homme pécheur ne peut approcher comme il veut, à moins que Dieu lui-même ait pourvu un chemin pour cela. Notons en passant que cette rigidité a malheureusement souvent conduit le peuple à s'attacher à la forme plutôt qu'au fond, à exécuter les actes requis avec un cœur qui était souvent loin de Dieu. Et c'est pourquoi, à plusieurs reprises, Dieu va dire par la bouche des prophètes qu'écouter, qu'obéir vaut mieux que les sacrifices. Rigidité, donc, mais qui ne signifie pas obéissance machinale, car c'est toujours le cœur que Dieu désire avant toute autre chose. Le culte sous l'Ancienne Alliance était donc caractérisé par la rigidité, alors que celui de la Nouvelle Alliance, notre culte, maintenant que Jésus est venu, est quant à lui caractérisé par la souplesse, une très grande souplesse en comparaison. Souvenons-nous de ce que Jésus disait à la Samaritaine qui le questionnait sur le lieu où il était convenable d'adorer Dieu. « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, le mont Garizim pour les Samaritains, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. » Jésus compare les Juifs et les Samaritains. Et puis, voilà la partie qui nous intéresse. « Mais l'heure vient, et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père, à Jérusalem, dans le temple, en offrant des sacrifices, non, en esprit et en vérité. Car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. » Dans sa réponse à la femme samaritaine, Jésus limite les prescriptions, si on peut encore les appeler ainsi, les prescriptions de l'adoration du culte sous la Nouvelle Alliance à deux choses. Cette adoration doit être faite en esprit et en vérité. Un point, c'est tout. Tout le reste, tout le reste n'a plus lieu d'être. Plus besoin donc d'aller au temple à Jérusalem pour adorer. Nous sommes, si nous sommes en Christ, le temple du Saint-Esprit. Et nous pouvons adorer Dieu en tout lieu, pour autant que nous le fassions en esprit et en vérité. Plus besoin de médiateurs humains, de lévites ou de fils d'Aaron, de la caste sacerdotale pour adorer. Par Christ, nous pouvons entrer chacun dans la présence de Dieu, si nous le faisons en esprit et en vérité. Plus besoin de temps prescrit pour adorer. Nous pouvons adorer Dieu en tout temps, si nous le faisons en esprit et en vérité. Bien sûr, tout cela est fondamentalement possible parce que Jésus a donné sa vie en sacrifice une fois pour toutes. Plus besoin donc d'offrir des sacrifices pour le péché. Par la foi en Jésus, nous sommes couverts par la justice de Christ et nous pouvons adorer Dieu si nous le faisons en esprit et en vérité. Chers amis, c'est indéniable, notre culte est caractérisé par une immense souplesse en comparaison à la très grande rigidité du culte de l'Ancien Testament. Quel privilège ! Est-ce que nous le mesurons vraiment ? La deuxième comparaison que nous faisons est entre les restrictions d'un côté et la liberté de l'autre. En effet, le culte de l'Ancienne Alliance est non seulement caractérisé par la rigidité, comme nous venons de le voir, mais également par les restrictions. Et cela est particulièrement visible dans deux domaines. Premièrement, cela se voit au niveau des personnes habilitées pour le culte. En effet, nous l'avons déjà dit, seuls les fils de Lévi, les Lévites, pouvaient accéder à l'intérieur du tabernacle ou du temple. Et seul le souverain sacrificateur parmi les fils d'Aaron pouvait une fois par an, entrer dans le lieu très saint, qui marquait le trône de Dieu, qui marquait la présence de Dieu au milieu de son peuple. Indéniablement, dans l'Ancienne Alliance, l'accès à la présence de Dieu était très limité, restreint au seul médiateur humain. Ainsi, le peuple n'avait accès à la présence de Dieu que par procuration, que par personne interposée. C'est une vraie restriction. Une restriction quasi totale au niveau des personnes. Ensuite, dans le culte de l'Ancien Testament, il y avait la restriction temporelle. Ce n'était qu'une fois par an, nous venons de le dire, que le grand prêtre pouvait entrer dans le lieu très saint. Et puis Dieu avait établi un calendrier liturgique avec des temps de fête et des temps de repos qui étaient prescrits pour le culte du peuple. Les fêtes et les sabbats étaient des temps prescrits par Dieu pour que le peuple s'approche de lui à ce moment-là, pour que le peuple lui offre des sacrifices, pour que le peuple se rappelle ce que Dieu avait fait pour lui, pour que le peuple le remercie, pour que le peuple se repose en lui, en sa providence. Oui, clairement, dans l'Ancienne Alliance, l'accès à la présence de Dieu était limité, restreint dans le temps. Mais avec la venue de Jésus, tout a changé. Les restrictions ont laissé place à la liberté de culte, à la liberté d'accès à Dieu. Cette liberté est en Christ, dit Paul aux Galates, chapitre 2, verset 4. C'est une liberté à laquelle nous avons été appelés et pour laquelle nous avons été affranchis. Galates 5, c'est C'est une liberté qui se trouve là où se trouve l'Esprit du Seigneur. 2 Corinthiens 3:17. C'est la liberté glorieuse des enfants de Dieu, Romains 8:21. C'est la liberté par laquelle nous pouvons maintenant nous approcher de Dieu, Éphésiens 3:12. Oui, en Christ, tous ses disciples, tous les enfants de Dieu sont des sacrificateurs. 1 Pierre 2, verset 5, Apocalypse 1, versets 5 et 6. Des sacrificateurs qui ont maintenant accès librement, c'est-à-dire en tout temps, à la présence de Dieu. L'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit à ce sujet, chapitre 10, versets 19 à 22, « Ainsi donc, frères, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus. » Accès que Jésus a inauguré pour nous comme un chemin nouveau et vivant au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc d'un cœur sincère, avec une foi pleine et entière, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Oui, parce que Jésus nous a ouvert le chemin au travers de sa chair, c'est-à-dire par son sacrifice. Jésus nous a ouvert le chemin au travers de sa chair qui a déchiré le voile du temple, qui marquait la distinction, l'obstacle, la limite à ne pas franchir par rapport à la présence de Dieu. Jésus qui nous a ouvert le chemin et qui enlève définitivement cet obstacle. L'obstacle d'une expiation à renouveler sans cesse et qui limitait de fait quasiment entièrement l'accès à Dieu. Nous avons par le sacrifice de Jésus un libre accès au sanctuaire auprès du Père. Et ainsi nous pouvons librement nous approcher de Dieu, librement lui apporter nos offrandes, notre reconnaissance, librement l'adorer en esprit et en vérité. Chers amis, c'est indéniable, le culte de l'Ancien Testament était marqué par de très grandes restrictions, alors que le nôtre est caractérisé par une très grande liberté. Quel privilège ! Est-ce que nous le mesurons vraiment ? La troisième et dernière comparaison que je voudrais souligner est entre les obligations sans fin d'un côté et l'accomplissement parfait et définitif de l'autre. Et ce que j'aimerais relever en particulier concerne l'obligation dans l'Ancien Testament de faire sans cesse, sans fin, l'expiation des péchés. Pour cette expiation sans fin, la loi prévoyait toutes sortes de sacrifices réguliers, des sacrifices quotidiens, matin et soir, auxquels s'ajoutaient les sacrifices hebdomadaires le jour du sabbat, les sacrifices mensuels au début du mois, des sacrifices chaque année le jour de l'expiation et des sacrifices pour l'expiation à toutes les fêtes d'Israël. Ça en faisait des sacrifices pour le péché, qu'il fallait renouveler tous les ans, tous les jours, sans cesse, sans fin. En fait, la grande leçon de tout ceci, c'est que l'expiation des péchés dans l'Ancien Testament n'était jamais terminée. Il fallait sans cesse la renouveler. Et Israël vivait avec cette obligation. Israël vivait sous cette chape de plomb d'une expiation qui n'était pas achevée. Jamais complète, jamais définitive. En parallèle de cela, ce qu'Israël devait apprendre et comprendre, c'est que sans effusion de sang, il n'y avait pas, il ne pouvait pas y avoir de pardon des péchés. Il fallait pour cela qu'une victime innocente soit substituée au coupable. aux pécheurs coupables. Tout cela, bien évidemment, préfigurait le sacrifice de Jésus sur la croix, lui, l'agneau de Dieu, sans défaut, sans tache, qui meurt à la place du pécheur, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Si l'obligation caractérise le culte de l'Ancien Testament, ce qui caractérise celui du Nouveau, c'est l'accomplissement. Ainsi, il n'y a plus d'obligation d'expiation dans la Nouvelle Alliance. L'expiation des péchés a été faite une fois pour toutes et parfaitement par Jésus à la croix. C'est là le sens profond de cette parole « Tout est accompli » que Jésus prononce quelques instants avant de rendre l'âme. Oui, tout a été accompli pour l'expiation des péchés, de nos péchés. Et c'est pourquoi nous pouvons vivre notre culte dans la joie, dans le privilège, dans la liberté de cet accomplissement. Cet accomplissement définitif qui caractérise notre culte est souligné à plusieurs reprises dans l'Épître aux Hébreux. Je ne prends que ces deux passages, Hébreux 7 et Hébreux 9. C'est bien un tel souverain sacrificateur qui nous convenait, parle bien sûr de Jésus, saint, innocent, immaculé, séparé des pécheurs, et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, et ensuite pour ceux du peuple. Cela, il, c'est-à-dire Jésus, l'a fait une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. Et puis au chapitre 9, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit par la main de l'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, non avec le sang des boucs et des veaux qui ne purifiaient d'aucun péché, mais avec son propre sang. C'est ainsi qu'il nous a obtenu une rédemption éternelle. Oui, voilà ce que Jésus a accompli définitivement à la croix et par sa résurrection, et qui fait que notre culte n'est plus sous la chape de plomb d'une expiation des péchés qu'il faut faire sans cesse, mais sous la liberté et la joie du salut parfaitement et définitivement accompli en Jésus. Quel privilège! Est-ce que nous le mesurons véritablement? Ainsi, maintenant, il n'est plus nécessaire d'offrir des sacrifices pour le péché dans notre culte. Et pourtant, le Nouveau Testament parle encore de sacrifices à faire. Nous passons au troisième et dernier point. Dans l'Ancien Testament, les sacrifices prescrits, on ne peut pas rentrer dans tous les détails, mais concernaient essentiellement le péché, c'est la très grande majorité des sacrifices, du péché qu'il fallait donc expier sans cesse. Ainsi, il y avait par exemple l'Holocauste, qui était offert pour le péché en général, pour que l'homme pécheur puisse s'approcher de Dieu. Il y avait aussi le sacrifice d'expiation qui était offert pour les fautes involontaires. Et puis il y avait le sacrifice de réparation ou de culpabilité qui lui concernait aussi les fautes involontaires mais commises dans le domaine cultuel. Tous ces sacrifices étaient obligatoires. Mais il y avait aussi dans l'Ancien Testament des sacrifices que l'on pourrait qualifier de volontaires. Des sacrifices volontairement offerts, généralement pour exprimer à Dieu la reconnaissance ou la consécration. Dans ce registre des sacrifices volontaires, il y avait en particulier le sacrifice de communion, parfois aussi appelé sacrifice de reconnaissance, et d'autres fois encore sacrifice de paix, qui en plus de sa valeur expiatoire, il avait aussi une valeur expiatoire, permettait aux croyants d'exprimer sa reconnaissance et sa consécration à Dieu. C'est avec ces sacrifices volontaires qu'il faut établir la correspondance avec les sacrifices qui sont mentionnés dans le Nouveau Testament, qui, vous l'avez bien compris, n'ont rien à voir avec le péché et son expiation. Et le premier de ces sacrifices mentionnés dans le Nouveau Testament, je le prends dans Romains au chapitre 12, verset 1, ce texte que nous connaissons bien. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice, vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ici, l'apôtre Paul, en introduction à la partie pratique de sa lettre aux Romains, exhorte les chrétiens de Rome à offrir leur corps comme un sacrifice. Mais pas comme un sacrifice où on se donne la mort, mais comme un sacrifice vivant, saint et qui est agréable à Dieu. Et il fait aussi le lien avec leur culte, en précisant que ce sacrifice de leur corps sera de leur part un culte raisonnable. Le mot qui est utilisé ici nous permettrait de traduire un culte comme la réponse logique à ce que Dieu a fait. Un culte raisonnable, un culte qui est la réponse normale à ce que Dieu a fait. D'une manière plus générale, l'apôtre Pierre parle quant à lui de sacrifice spirituel, qui certainement englobe la louange, dont nous allons parler dans un instant, mais aussi notre vie tout entière, rejoignant ce que Paul dit ici aux Romains. Je lis ce que Pierre dit dans 1 Pierre 2, 4 et 5, et je lis là dans la traduction de la Bible du Semeur. Approchez-vous de lui, car il est la pierre vivante que les hommes ont rejetée, mais que Dieu a choisie et à laquelle il attache une grande valeur, et vous aussi, comme des pierres vivantes, vous qui formez un temple spirituel, édifiez-vous pour constituer une sainte communauté de prêtres, chargés de lui offrir des sacrifices spirituels qu'il pourra accepter favorablement par Jésus-Christ. Chers amis, le premier sacrifice auquel Dieu prend plaisir aujourd'hui, c'est celui de notre corps, c'est-à-dire celui de notre vie tout entière. Ce que nous sommes, ce que nous faisons, ce que nous pensons, ce que nous disons, tout ce que nous sommes, offert à Dieu comme un sacrifice vivant. Bien sûr, nous ne sommes plus sous la contrainte et l'obligation, nous l'avons dit, mais nous sommes dans la logique de la reconnaissance. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul ici ne commande rien, mais il exhorte à cela. Oui, parce que Dieu nous a tout donné, parce qu'il nous a donné ce qu'il avait de plus cher, parce qu'il nous a donné son Fils unique, nous voulons en retour nous offrir à lui. Nous désirons en retour que notre vie soit vécue à sa gloire et qu'elle lui soit agréable. Notons bien ici que cette consécration totale à laquelle nous sommes exhortés n'est qu'un culte raisonnable. Il n'y a rien d'extraordinaire dans cela. Ce n'est que le prolongement logique normal de ce que Dieu a fait pour nous sauver. Alors que le Seigneur nous aide à comprendre toujours mieux et toujours plus son amour manifesté en Jésus pour nous sauver, afin que nous puissions toujours plus et toujours mieux y répondre par le sacrifice, le don de notre vie à son service. Le deuxième sacrifice auquel le Nouveau Testament nous exhorte est celui de notre louange. Je lis Hébreux 13, verset 15. « Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. Quand nous pensons louange, nous pensons rapidement musique, chant, culte du dimanche matin, groupe de soutien au chant, et j'en passe. Ce n'est pas faux, mais c'est très incomplet. Et ce qui me frappe dans ce verset, c'est que la louange que nous sommes exhortés à offrir à Dieu comme un sacrifice doit être offerte sans cesse, dit le texte. Sans cesse. C'est donc bien plus large, bien plus vaste que les 40 minutes de la première partie de notre culte dominical dans laquelle nous avons notre temps de louange. Ce que nous devons bien comprendre ici, c'est que la mention sans cesse implique nécessairement, et c'est le lien avec le texte qui a précédé, implique nécessairement notre vie tout entière. Si c'est sans cesse, c'est forcément parce que ça m'implique du matin au soir et du soir au matin, et ça rejoint bien le sacrifice de notre corps, de notre vie tout entière. L'autre point que j'aimerais souligner ici, c'est l'explication donnée au sacrifice de louange, à savoir le fruit de lèvres qui confesse son nom. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la véritable louange n'existe ou ne peut exister que là où le nom de Dieu est véritablement confessé. Et là où il est véritablement confessé, c'est quand le cœur et les lèvres sont au diapason. En effet, la véritable louange ne peut venir que d'un cœur qui est attaché à Dieu, que d'une vie qui lui est consacrée et par extension que de lèvres qui confessent son nom. Un pommier produit toujours des pommes, jamais des olives. Un cœur attaché à Dieu, qui se traduit par des lèvres qui confessent son nom, produit toujours un fruit qui s'appelle la louange. Cela veut clairement dire que la véritable louange ne peut jamais se fabriquer, qu'elle ne peut jamais se résumer aux moyens qui la portent, aussi beau, aussi performant, aussi générateur d'émotions soit-il. Chers amis, voulons-nous véritablement louer Dieu? Alors ce que nous devons faire par-dessus toute autre chose, c'est veiller sur notre cœur, c'est veiller sur notre vie, c'est veiller sur notre témoignage. C'est ainsi que nos lèvres pourront véritablement louer Dieu et lui offrir ce sacrifice auquel il prend plaisir. Je termine. Le troisième et dernier sacrifice auquel le Nouveau Testament nous exhorte est celui de la bienfaisance et de la libéralité. C'est la suite du texte d'Hébreux 13. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Cependant, n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Ici, il s'agit du bien que nous pouvons faire par amour à notre prochain, ce qui inclut bien sûr nos frères et sœurs en Christ. Quand nous faisons le bien, quand nous partageons de nos biens, si nous sommes en Christ, alors nous offrons à Dieu un sacrifice auquel il prend plaisir. Notons bien ici que l'auteur introduit la mention de ce sacrifice par l'exhortation « N'oubliez pas, n'oubliez pas. » N'oubliez pas parce qu'il est facile d'oublier. N'oubliez pas parce qu'il est facile de vivre égoïstement. N'oubliez pas parce qu'il est facile de ne pas penser aux autres. N'oubliez pas parce qu'il est facile de ne pas toujours faire le bien que nous pourrions faire. Et on peut se souvenir ici de ce que Jacques dit dans sa lettre. Il souligne que le péché, ce n'est pas seulement faire le mal, c'est aussi ne pas faire le bien que nous savons faire. Si quelqu'un sait faire le bien et ne le fait pas, il commet un péché. C'est pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit « N'oubliez pas ». N'oubliez pas. Oui, n'oublions pas que Dieu prend plaisir à ce que nous fassions le bien. Dieu prend plaisir à notre générosité envers lui et envers les autres, et en particulier envers les frères et sœurs dans la foi. La bienfaisance et la libéralité sont des sacrifices auxquels Dieu prend plaisir. Il est plus que temps de conclure. Si je suis en Christ, si je suis en Christ par la foi, alors je suis un sacrificateur pour Dieu, un sacrificateur dans son royaume. Et Dieu désire que je lui offre des sacrifices spirituels. Il ne s'agit plus maintenant de, bien évidemment, des sacrifices de l'Ancien Testament. Le sacrifice de ma vie, de mon corps, de ma vie tout entière. Le sacrifice de ma louange, c'est-à-dire de ma vie qui est vécue à sa gloire. Et le sacrifice de ma bonté et de ma générosité. Voilà les sacrifices auxquels Dieu prend plaisir aujourd'hui. Voilà le culte raisonnable que nous sommes appelés à vivre tout au long de notre semaine. Alors que Dieu nous accorde de marcher de progrès en progrès dans toutes ces choses que nous venons de voir. Si nous le faisons, ce sera pour sa gloire et ça sera aussi pour notre bien. Amen.